VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel en RDC. La police congolaise a donné aujourd'hui l'assaut contre le domicile du chef d'une secte séparatiste à Kinshasa. L'intervention des forces de l'ordre a donné lieu à des affrontements avec les partisans du gourou Idrissa Seydoudia.
L'assaut contre la résidence de Ne Mwanda Nsemi, prophète autoproclamé du Bundudia Congo, a débuté vers 4h30, soit 3h30 GMT. D'après l'agence Reuters, les forces de l'ordre ont fait usage de balles réelles et de gaz lacrymogène. On ignore pour l'heure s'il y a des victimes et la police congolaise n'a pas fait de commentaire. Nsemi, qui affirme avoir eu une révélation, a fondé le BDK, c'est-à-dire le Bundudia Congo, dans les années 1980 avec l'ambition de faire revivre le royaume précolonial du Congo qui couvrait une vaste partie de l'Afrique centrale. Au début du mois, au moins 8 de ses adeptes ont été tués dans des affrontements avec la police à Kimpissé, une ville de la province du Bas-Congo dans le sud-ouest du pays, habituellement épargnée par les violences qui marquent d'autres régions du pays. Des analystes notent que le refus de Joseph Kabila de quitter la présidence à l'expiration de son mandat en décembre dernier a conduit à un regain d'activité de multiples groupes armés.
L'armée du Soudan du Sud, réagissant à la récente démission d'un influent général critique envers le régime, a accusé le haut-gradé d'avoir fui le pays pour échapper à des poursuites pour malversation. Et de son côté, le général Thomas Sirio Swaka, ex-numéro 2 de la division logistique au sein de l'état-major, reproche au président et à la SPLA, l'armée gouvernementale, d'avoir systématiquement torpillé un accord de paix signé en août 2015 pour mettre fin à la guerre civile dans sa lettre de démission datée du 11 février. Le général, membre de l'ethnie Bari, qui a fui le Soudan du Sud pour une destination inconnue, les accuse également de poursuivre l'agenda du Conseil des aînés de l'ethnie Dinka, dont le président Salva Kiir fait partie, à savoir une campagne de nettoyage ethnique et le déplacement forcé de population. En Côte d'Ivoire, le syndicat de la presse privée a exigé lundi la libération immédiate et sans condition de 6 journalistes ivoiriens arrêtés la veille pour divulgation de fausses nouvelles, y voyant une atteinte flagrante à la liberté d'expression. Selon le procureur de la République, Richard Adou, l'arrestation de ces journalistes est liée au récent mouvement d'humeur des militaires au cours desquels certains organes de presse ont divulgué de fausses informations de nature à inciter les soldats à la révolte. Ce n'est pas l'avis de Guillaume Gbatou, qui est le secrétaire général du SINAPSI.
Les pouvoirs publics ne comprennent pas que les journalistes soient vraiment donnés beaucoup de liberté par rapport à la gestion de la question des mutineries. Mais nous pensons que il n'appartient pas aux journalistes de cacher la vérité. Bien au contraire, notre métier, c'est de faire éclater la vérité pour que tous les concitoyens, tous nos compatriotes sachent ce qui se passe dans le pays, même si cela concerne l'armée. Parce que ce qu'on nous oppose, c'est que ce sont des questions sensibles liées à la défense nationale. Nous en convenons. Mais nous estimons en même temps que ces questions aussi préoccupent les Ivoiriens qui ont envie de savoir ce qui se passe, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été fait, et qui ont envie d'être aussi rassurés. Donc, je pense que ce n'est pas plutôt politique, mais c'est la nature même du travail des journalistes qui semble être remise en cause à haut niveau, et cela est un peu déplorable.
Guillaume Gbatou, secrétaire général du syndicat de la presse privée de Côte d'Ivoire, joint à Abidjan. Agriculture, l'invasion d'une chenille légionnaire vorace venue d'Amérique fait l'objet d'une réunion d'urgence sous l'égide de l'ONU aujourd'hui à Harare afin de discuter de mesures contre cette larve qui a endommagé les cultures céréalières de plusieurs pays africains et fait craindre des pénuries alimentaires. Des experts représentant 13 pays seront réunis pendant 3 jours dans la capitale zimbabwéenne sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, la FAO. La chenille légionnaire d'automne, originaire des Amériques et récemment introduite en Afrique, a déjà fait des ravages dans les champs de céréales en Zambie, au Zimbabwe, en Afrique du Sud et au Ghana. Le Malawi, le Mozambique et la Namibie seraient également affectés.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Première rencontre entre le président américain Donald Trump et le premier ministre canadien Justin Trudeau. Les deux hommes se sont entretenus à la Maison-Blanche, notamment sur le commerce bilatéral et des dossiers brûlants tels que la sécurité et l'immigration. Les relations commerciales entre les deux voisins nord-américains ont dominé la conférence de presse. Pour Justin Trudeau, il s'agissait surtout de mettre en exergue ce qu'il appelle le caractère unique de ces relations.
Des millions de bons emplois bien rémunérés pour la classe moyenne des deux côtés de la frontière dépendent de ce partenariat crucial. Entretenir des liens économiques solides est essentiel à notre succès mutuel et nous allons continuer de travailler ensemble au cours des prochaines années pour que les familles canadiennes et américaines puissent continuer à prospérer. C'est une préoccupation pour bien les Canadiens parce qu'on sait à quel point notre économie est extrêmement dépendante des liens que nous avons avec les États-Unis. Les biens et les services qui traversent chaque direction de notre frontière veulent dire des millions de bons emplois pour les Canadiens. Mais des millions d'emplois aux États-Unis, des bons emplois pour la classe moyenne, dépendent aussi de ces bons liens économiques entre nos deux pays.
Le premier ministre canadien Justin Trudeau. Les autorités américaines de l'immigration ont arrêté ces derniers jours près de 700 immigrés condamnés pour des délits ou des crimes, a annoncé lundi le secrétaire américain à la sécurité intérieure John Kelly. Dans un communiqué, il précise que les faits reprochés aux immigrés interpellés vont de l'homicide à la conduite en état d'ivresse. Les organisations de défense des immigrés redoutent de leur côté que ces opérations ne prennent pas en compte les attaches familiales des immigrés ni leur niveau réel de dangerosité. Lors de sa prise de fonction, le président américain Donald Trump a promis d'expulser 2 à 3 millions d'immigrés disposant d'un casier judiciaire. Et l'ancien général Michael Flynn a démissionné de son poste de conseiller à la sécurité nationale du président Donald Trump. Michael Flynn était connu pour son indulgence avec la Russie et sa ligne dure face à l'extrémisme islamique. Âgé de 58 ans, l'ancien directeur du renseignement américain était l'une des rares figures du sérail de la défense américaine à avoir soutenu Donald Trump pendant sa campagne électorale, mais il était sur la sellette depuis la publication vendredi par le Washington Post et le New York Times de la teneur de ses conversations avec l'ambassadeur de Russie à Washington, Sergei Kislyak.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Un haut responsable de l'ONU a lancé un appel pressant aux belligérants de la guerre en Syrie pour laisser entrer l'aide humanitaire dans 4 localités assiégées sous la menace d'une catastrophe imminente. Ali Al-Zaatari, coordonnateur humanitaire de l'ONU en Syrie, a averti dans un communiqué que 60 000 personnes étaient en grand danger à Zabadani, Madaya, Foua et Kefraya. Les derniers secours acheminés à ces 4 localités remontent au mois de novembre. Les affrontements des 2 derniers jours entre les rebelles proches du groupe État islamique et une autre faction islamiste dans le nord-ouest de la Syrie ont fait plusieurs dizaines de morts, rapporte aujourd'hui l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH. Ces combats opposent le Jund al-Aqsa, jugé idéologiquement proche de l'État islamique, et le groupe Tahrir al-Sham, Libération du Levant, nouvelle alliance formée le mois dernier par plusieurs factions, dont le front Fateh al-Sham, ex-front al-Nusra, qui dit avoir rompu avec Al-Qaïda. Les deux factions se disputent le contrôle de ressources et de territoires, principalement dans le nord de la province d'Amma et dans le sud de celle voisine d'Ildib. Une voiture piégée a explosé aujourd'hui dans une zone industrielle de Bagdad en Irak, tuant au moins 4 personnes, a indiqué la police. 14 personnes ont été également blessées par cette explosion à Al-Bayah, un quartier mixte habité par des sunnites et par des chiites, ces derniers formant la majorité de la population irakienne. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais il porte la marque du groupe djihadiste État islamique, responsable de plusieurs attaques ces derniers mois dans la capitale irakienne. L'État islamique tente de résister à l'offensive des forces irakiennes pour lui reprendre Mossoul, son dernier fief dans le pays. Et pour terminer, au moins 7 soldats saoudiens ont été tués à la frontière avec le Yémen en moins d'une semaine. L'agence officielle saoudienne SPA a publié depuis jeudi des photos de funérailles de ces soldats qualifiés de martyrs en indiquant qu'ils avaient trouvé la mort en défendant les frontières sud de l'Arabie saoudite. La dernière annonce a été faite tard lundi et la SPA a indiqué que le père du dernier soldat tué s'est dit fier du sacrifice de son fils. L'Arabie saoudite est à la tête d'une coalition arabe sunnite qui intervient militairement au Yémen contre les rebelles chiites houthis, accusés, eux, de liens avec l'Iran. Jean-Roger Billon à ce micro, merci de nous avoir suivis. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes. Il vous sera présenté par Henri Francisque. Pour ma part, je vous dis bon après-midi sur le continent.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.